Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture à 11h. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon et Lucas Lazo, mais aussi Mélanie Chalandon et Bertie Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Ludovic Auger. Dernier temps de notre série consacrée aux besoins d'évasion et dernière émission aussi de la saison pour Culture Monde avant de vous retrouver évidemment à la rentrée. Après avoir évoqué lundi les nouvelles directions du tourisme, mardi les mutations de la consommation, et puis hier l'univers des séries, c'est d'évasion littéraire qu'il va être question aujourd'hui.
Je crois que pour Vernet et pour moi, le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est pas la négation, qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. Pour nous, le voyage était un catalyseur, si vous voulez. On se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif. Et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine. On ne peut pas comprendre les gens si on ne partage pas entièrement leur vie, côté positif et côté négatif.
D'Arthur Rimbaud à Ella Maillard, en passant par Jack Kerouac ou Nicolas Bouvier qu'on vient d'entendre, la confrontation à l'autre, mais aussi à soi-même, dans la solitude de l'itinérance et de l'expatriation, a donné à la littérature certaines de ses plus belles pages. Alors qu'à l'heure d'EasyJet, des Airbnb, les observateurs les plus grincheux pourraient pronostiquer la mort de l'exotisme et la disparition des écrivains voyageurs, les romans de nombreux auteurs prouvent que l'exploration du monde a encore de beaux récits à offrir. Mais quels horizons reste-t-il à explorer? Quel exotisme à dévoiler lorsque la crise du Covid est passée par là, renfermant instantanément les frontières? L'évasion serait-elle là, à notre porte? N'y a-t-il pas, à quelques pas d'ici, des mondes à découvrir et à côté desquels nous passons depuis si longtemps, emportés par la fièvre de la globalisation? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin un écrivain, voyageur aussi, c'est Mathias Sénard. Bonjour Mathias Sénard.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin, Mathias Sénard. C'est un plaisir de vous accueillir, et en particulier pour cette dernière émission de Culture Monde, avant de se retrouver l'année prochaine. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs qui va paraître à la rentrée, dont on va dire quelques mots, sans rien dévoiler évidemment, pas trop en tout cas, Prendre refuge, qui était une BD avec Zeina Abirached, qui était parue chez Casterman, on pense évidemment aussi à Boussole, qui vous avez valu le prix Goncourt, Rue des voleurs, Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants, Zone, des ouvrages qu'on va évoquer durant notre échange, Mathias Sénard. Mais on va peut-être commencer sur votre prochain roman. Alors, je disais, je vais pas trop en dire, mais suffisamment pour qu'on voit un peu de quoi il est question. On va se plonger dans le quotidien d'un jeune anthropologue, David, qui vient s'installer au cœur d'un village du Poitou pour y faire son travail de terrain. Il va y découvrir la vie sociale d'un petit village de campagne qu'il ne soupçonnait peut-être pas et qui va le conduire à remettre en question son propre mode de vie. Vous avez énormément voyagé, Mathias Sénard, et vos précédents livres nous ont emmenés justement assez loin, en Afghanistan, en Syrie, au Liban, et là, avec ce prochain roman, Le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs, vous revenez dans votre Niortais natale. Vous aviez besoin de ce retour aux sources, Mathias Sénard ?
Eh bien, c'est peut-être parce que justement, je pouvais revenir en voyant les territoires autour de Niort et de ma ville natale et de mon enfance comme quelque chose de différent et d'exotique, que j'étais enfin capable d'y voir, d'ouvrir les yeux, de les observer et d'en profiter, j'avais très envie d'écrire ce livre. Un peu, d'abord, me retrouver moi-même, en quelque sorte, revoir un peu mes territoires d'enfance, mais les voir avec les yeux de quelqu'un qui, justement, les découvrirait un peu pour la première fois. Qu'est-ce que je pourrais en dire si j'avais pas grandi là, quoi. Voilà. Si j'étais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui arriverait à Niort au début du 21e siècle et qui ou dans la plaine ou dans le marais Poitevin et qui tout d'un coup s'intéresserait à ces contrées et se demanderait mais qu'est-ce que j'y vois? Qu'est-ce que je vais y rencontrer? Qu'est-ce que je vais y apprendre comme histoire et entendre comme langue, comme récit, comme explorer les paysages et parcourir des contrées de la même façon que voilà, si c'était un pays lointain, parce que finalement l'exotisme, enfin le voyage en tout cas, et ça pour ça l'archive là, de Nicolas Bouvier était vraiment est vraiment magnifique. C'est avant tout, c'est une sorte de méditation. C'est en fait un état d'esprit en soi, une transformation du regard et du rapport qu'on peut avoir au monde. Mmh. Et ça, on peut absolument le faire, je pense, n'importe où. Sauf que ça demande quand même un peu de, oui, de travail, en fait. Hein,
De travail, et j'ai l'impression un déplacement quand même du regard. Parce que ce que vous dites, c'est Que dirait quelqu'un qui n'a pas vécu dans le Poitou en y arrivant? C'est-à-dire que vous vous forcez quand même, pour décrire ce Poitou qui est votre lieu de naissance, là où vous avez vos racines, vous vous forcez à quand même créer un déplacement du regard.
Oui, déplacer le regard, ça veut dire tout simplement retrouver un regard aussi. Hein. Parce que, bien sûr, bon, moi, j'ai grandi dans les Deux-Sèvres jusqu'à ce que j'ai 18 ans, et quand j'ai eu mon bac, j'ai été très heureux d'en partir, on va pas se le cacher. Et j'ai été aussi heureux d'y revenir. Alors peut-être pas comme dans le poème de Dubellay, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage et puis revient un peu à la case départ. Non, justement, revenir à la case départ, c'est pas vraiment possible. Il faut arriver avec ce qu'on a vu ailleurs et retrouver une passion pour le paysage, une nouveauté, et oui, déplacer son regard au sens de le réinventer un peu plutôt.
Vous parlez de paysage, je vous en prie.
C'est peut-être plus une façon de se réinventer soi-même, de pouvoir enfin observer, pas avec neutralité, puisque bon, on est devenu quelqu'un d'autre, mais justement avec cette distance qu'on a pu mettre avec ses racines, retrouver tout simplement un plaisir et aussi une passion. C'est-à-dire que c'est aussi un regard bien sûr tendre et amoureux qu'on porte sur ces endroits. Il y a une curiosité d'apprendre, de faire partager, de mettre un peu en commun des territoires et des récits.
Est-ce que vous avez besoin précisément de toucher de vos sens ces territoires et ces paysages pour écrire dessus? Parce que je crois que c'est un livre qui vous a demandé un tout petit peu de temps, ce n'est pas toujours le cas. Je crois que ça fait une dizaine d'années, hein, si je ne m'abuse, hein, que vous travaillez sur ce roman. Or, il se trouve que vous le publiez à un moment où précisément vous êtes revenu dans votre Poitou natal. Alors, est-ce que vous avez besoin d'habiter ce territoire, ce paysage, ce lieu pour en écrire quelque chose?
Alors, peut-être que si je n'avais pas habité là, le roman, si j'étais pas revenu justement très très fréquemment, le roman aurait été différent. Je ne sais pas si c'est une nécessité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque chose se passe dans une relation presque physique, hein, avec un lieu, un paysage, des sons, des oiseaux, des gens, il y a quelque chose effectivement de très sensuel dans le contact avec la réalité, tout simplement. Et quand on se met à l'écoute justement de ce que signifie un lieu, eh bien on est tout d'un coup en contact, voilà, avec la nature, bien sûr, qui est un peu une des grandes questions du roman. Mais aussi, on s'intéresse tout simplement à des choses comme le ferait un touriste ou un voyageur. D'ailleurs, tout ça a commencé un peu parce que j'ai lu un guide de voyage, et notamment, je crois que c'était un guide des années 70, un de ces anciens guides bleus très épais, sur le Poitou-Charentes. Et j'étais absolument fasciné parce que d'abord, je ne connaissais pas les trois quarts des informations qui s'y trouvaient, mais en plus, je n'avais jamais visité même le quart de ces lieux qu'un touriste, c'est-à-dire un voyageur, hein, qui viendrait entre Niort et La Rochelle, aurait lui envie de voir et visiter. Donc je me suis rendu compte que finalement, ces terrains et ces territoires que je pensais très naïvement bien connaître, eh ben, en fait, j'y connaissais absolument rien. Mmh. Et que oui, j'étais allé, comme tout le monde, un peu à la rame dans le marais poitevin ou à la voile dans le Pertuis d'Antioche, mais je connaissais vraiment très mal et l'histoire et les traces de cette histoire dans le paysage. Et donc un guide touristique devenait tout d'un coup du pays, en tout cas, dont je connais et la langue et les habitants, devenait un livre absolument fascinant et exotique. Ah, enfin, finalement, ce déplacement du regard dont vous parlez tout à l'heure, il arrive assez facilement, voilà, par des petits accidents comme ça, une rencontre avec quelqu'un qui va vous raconter une histoire, une rencontre avec un livre, une rencontre, je me rappelle aussi être tombé en panne en voiture, et j'ai passé quelques heures au milieu d'un champ à attendre que quelque chose se produise, à être du coup tout à fait accidentellement présent à ce paysage qui a priori était désert, et néanmoins voilà, quelque chose s'est passé qui m'a fait réaliser énormément de questions liées, voilà, au sol, à la terre, à l'agriculture, qu'est-ce que poussait tout simplement dans ces champs que j'avais vus pendant des années sans m'y intéresser réellement.
Vous parlez d'histoire. Le Poitou a évidemment lui aussi une histoire, et une histoire importante. Alors, quand on y pense, on pense forcément à la bataille de Poitiers entre les Francs et cette armée d'Omeyyades menée par le gouverneur d'Al-Andalus, qui était le nom de cette péninsule ibérique du temps de la domination arabe. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette région-là, s'agissant de l'histoire du territoire? Quelle place ça a, surtout dans votre livre?
Évidemment, c'est un grand moment de l'histoire
du
Poitou, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est un moment d'une rencontre, alors une rencontre violente et fugace, mais qui a laissé une trace dans la mémoire collective. On a tous cette date en tête, 732. Alors, on ne sait pas exactement quand c'était, ni où d'ailleurs. Il y a plusieurs possibilités pour l'endroit, mais néanmoins, on a quelques récits et notamment quelques sources, d'ailleurs bien plus arabes que latines, qui racontent cet affrontement dans lequel le gouverneur d'Al-Andalus a perdu la vie, ce qui est un peu pour ça que les chroniqueurs en parlent. Et surtout, ce qui me fascine, c'est d'imaginer que bien sûr tous ces soldats berbères, arabes et mercenaires de toute la péninsule ibérique sont passés, pour ainsi dire, devant chez moi, et qu'il y a sans doute quelques cimetières et casques et flèches sarrasines au fond de mon jardin. Et donc, quand on pense en termes un peu comme ça, presque d'archéologie, enfin, quand on imagine en tout cas toutes les traces de tous ceux qui ont traversé ces contrées, on se rend compte que un endroit dans lequel a priori on dirait bon oui bon, le Poitou-Charentes, on n'imagine pas une histoire extraordinairement brillante, et bien finalement oui, ça participe de la construction de l'histoire de France par la bataille de Vouillé, Clovis, contre les Visigoths. Enfin, énormément de moments de l'histoire du roman national, comme on dit aujourd'hui, mais aussi plus profondément de la transformation du rapport, par exemple, au protestantisme, des guerres de religion, de la révocation de l'édit de Nantes, enfin de choses qui ont profondément, réellement transformé les mentalités et la région qui a connu pendant très longtemps la violence de la guerre. D'abord, bien sûr, la guerre de Cent Ans, la présence anglaise, ensuite les guerres de religion et enfin les guerres de qu'on appelle de Vendée, qui se sont aussi bien sûr déroulé dans le nord et des Deux-Sèvres. Donc c'est un endroit où c'est intéressant justement de réfléchir à cette construction de la France, que ce soit sur un rapport à l'État, un rapport à la loi, un rapport à la religion d'État, au catholicisme, des questions, bien sûr, qui ont façonné le territoire français.
J'ai évoqué Mathias Sénard dans mon introduction, un certain nombre d'écrivains voyageurs. J'ai parlé de Jacques Kerouac, il y avait évidemment Nicolas Bouvier, dont on entendait une très belle archive de la RTS de 1963. Je parlais d'Arthur Rimbaud. J'ai parlé d'Ella Maillard aussi, qui est cette écrivaine voyageuse suisse que l'on croise d'ailleurs dans votre roman Boussole, qui est cette femme qui a parcouru notamment l'Asie centrale soviétique dans les années 1930, qui est une femme absolument incroyable. D'ailleurs, il se trouve que j'ai réécouté pendant le confinement une très belle émission de France Culture qui avait été réalisée en 1994, que vraiment j'invite les auditeurs à la réécouter, elle est formidable. Est-ce que vous ressentez une certaine filiation, et laquelle, Mathias Sénard, avec certaines de ces figures? Et est-ce que d'ailleurs, vous considérez, vous, comme un écrivain voyageur?
Bien non, enfin, ce serait un peu une usurpation, parce que je suis pas du tout un écrivain voyageur, au sens où je ne voyage pas, disons que le même si dans tous mes romans, ça je m'en rends compte, hein, la fiction est mise en route par le déplacement, par le voyage. Moi-même, je n'effectue pas de voyages compliqués, ni d'exploration, ni...
Enfin, de longs séjours au Moyen-Orient, l'Iran, l'Égypte, la Syrie, le Liban, tout ça.
C'est ce que j'allais dire, oui, je suis un voyageur très lent. j'ai passé des mois et des années dans le monde arabe, en Iran. J'ai habité pendant quelques temps en Italie, en Allemagne. Oui, je voyage au sens où je me déplace et je m'installe quelque part pendant longtemps pour m'intéresser aux langues, à ce qui se passe dans un pays. Mais je n'aime pas le voyage au sens de l'expédition. J'ai l'impression que c'est toujours extrêmement frustrant. On part quelques jours, on voit un endroit absolument fascinant auquel généralement on comprend rien de prime abord. Il faut s'habituer. Et je trouve qu'il y a une espèce de violence, hein, dans le voyage rapide, hein, que ce soit par les moyens de transport d'aujourd'hui ou par l'impossibilité de tout d'un coup comprendre ou assimiler les milliards de sollicitations qu'on a autour de soi, les bruits, les parfums, les voix.
Ça va trop vite d'une certaine manière.
C'est un étourdissement qui pour moi est l'inverse de la littérature. La littérature, c'est pas, enfin en tout cas la fiction, le récit, c'est pas tant l'étourdissement, peut-être la poésie sera du domaine de cette explosion immédiate, hein. Mais pour ma littérature, à moi, les choses que je raconte, j'ai besoin du temps long, de l'infusion, en fait, hein, des expériences et des savoirs en moi.
Bah c'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve chez Ella Maillard que j'évoquais, ou même une autre figure qu'on retrouve dans votre BD, Anne-Marie Schwarzenbach. C'est du voyage au long cours là pour le coup.
Oui, alors c'est vrai qu'elles ont eu même ensemble un voyage assez extraordinaire, hein, qu'Ella Maillard raconte dans La Voix cruelle, titre absolument sublime par ailleurs. Le livre est magnifique. Et qui est ce voyage qu'elle effectue donc avec Anne-Marie Schwarzenbach depuis la Suisse dans une voiture Ford à la toute fin des années 30, et qui se termine pour Anne-Marie Schwarzenbach au moment où elle se sépare, hein, en Afghanistan en 1939, en septembre 39, donc au tout début des hostilités de la Seconde Guerre mondiale, juste après l'invasion de la Pologne, quand elles apprennent que l'Europe est en guerre. Anne-Marie Schwarzenbach décide de rentrer en Europe, hein, en bateau, prend un bateau à Bombay, et Ella Maillard, elle reste en Inde, où elle passera toute la guerre et ne rentrera en Europe qu'en 1945. Et donc c'est un moment tournant, ces deux femmes en Afghanistan, un moment tournant parce que évidemment l'Europe qu'elles ont quittée ne sera plus jamais la même. Elle sera évidemment détruite par la Seconde Guerre mondiale, et puis aussi parce que Anne-Marie Schwarzenbach elle-même ne survivra pas à la guerre, puisqu'elle mourra en accident en 1942. Donc ce moment où elles se séparent, moment assez difficile pour l'une comme pour l'autre, en 1939, à l'automne 39, et le dernier moment aussi de leur amitié. Ils échangeront ensuite une ou deux lettres, et puis Anne-Marie Schwarzenbach mourra. Donc, dans le voyage, voilà, y a des moments comme ça assez extraordinaires. C'est vrai que peut-être qu'autant que le voyage, j'aime les voyageuses et les voyageurs, oui.
D'ailleurs, il y a beaucoup de figures de voyageurs, voyageuses dans vos ouvrages.
Oui, c'est vrai, peut-être parce que moi, je suis assez peu et je suis assez fasciné par les écrivaines et les écrivains voyageurs. Oui, ce sont des gens qui nous transmettent. Et moi, j'utilise énormément leur récit pour mon travail. Hein. C'est vrai, même si moi, du coup, j'ai un peu de mal à me définir comme un écrivain.
Comme un écrivain voyageur.
Voyageur, oui.
Et pourtant, vous voyagez énormément et on retrouve beaucoup dans vos romans des figures de voyageurs. Est-ce qu'il y a eu quelque chose d'un peu fondateur dans votre vie qui aurait forgé cette conviction que, eh bien, votre vie tournerait autour de ces deux activités, même si vous dites que vous n'êtes pas un écrivain voyageur, il se trouve que vous voyagez beaucoup et que vous écrivez évidemment. Il y a eu quelque chose d'un peu fondateur qui vous a dit, bon voilà, ça sera le voyage et l'écriture.
On est toujours tenté de reconstituer des souvenirs ou des moments qui éclaireraient comme ça, comme des un peu des phares ou des spots, hein, une vie future. Je vous dis, j'ai grandi à Niort jusqu'à ce que j'ai 18 ans. J'avais pas fait vraiment de voyage au long cours, mais néanmoins, c'était vraiment les livres, hein, qui m'offraient cette perspective, et c'est le rêve du voyage. Je pense que, en tout cas, pendant toute mon adolescence, ce qui m'a vraiment motivé, c'est le rêve du voyage. Ce qui m'a un peu fait sortir de moi, c'est la lecture de poètes et d'écrivains voyageurs comme Blaise Cendrars, par exemple. C'est vrai que s'il y a un moment où je commence un voyage, c'est quand je me rends en Sibérie avec Blaise Cendrars en lisant la prose du Transsibérien et que je découvre Moscou croustillé d'or, que j'entends les bruits du train dans cette immense Sibérie au moment de la première révolution russe, hein, le grand Christ rouge de la révolution russe. Et ça, voilà, ça c'est un moment d'un voyage grâce à un écrivain et par le livre. Donc moi, c'est comme ça un peu que je parviens au voyage. Et ça me fait rêver de me dire, ah oui, je vais, moi aussi, je veux découvrir des endroits extraordinaires. Moi aussi, je veux aller à Moscou. Je veux aller voir Harbin et Port Arthur et écrire à mon tour, hein, des récits pour faire partager ces expériences-là. Je pense que ça, c'est un des moments sans doute fondateurs de ma vie d'écrivain et aussi de ma vie personnelle. Mais après, la vraie rencontre, c'est celle avec le monde arabe, hein, et qui va, le monde arabe et l'Iran, le Moyen-Orient en règle générale, et la littérature arabe et persane qui vont me passionner et me pousser à aller au Caire, en Syrie, longtemps, au Liban, à Téhéran, pour poursuivre cette découverte. Et finalement, tout ça passe avant tout par des rencontres livresques, mais qui après débouchent, hein, sur un voyage beaucoup plus réel.
On va refaire, justement, j'en profite, Mathias Sénard, on va refaire un détour du côté de la Sibérie tout à l'heure avec Johann Barbero, à qui il est arrivé des mésaventures, justement, du côté de la Sibérie et qui ont donné un ouvrage qui est paru chez Stock dans les geôles de Sibérie, mais ça sera pour dans quelques minutes. On sort quand même d'un moment, Mathias Sénard, tout à fait particulier, qui est le confinement, qui est donc un moment où on n'avait plus la possibilité, précisément, de voyager, de se déplacer. Est-ce qu'il a fait naître, précisément, vous parliez de rêves, est-ce qu'il a fait naître des rêves de voyage, ce confinement? Chez vous.
Ah mais oui, mais alors d'autant plus que évidemment, qui dit absence de voyage dit absence de touristes, et donc des endroits qu'on n'a jamais connus déserts, qui faisaient absolument rêver. J'ai vu des photographies de Venise, par exemple, au temps du confinement, absolument déserte, hein, comme elle pouvait l'être au temps de l'épidémie de choléra que raconte Thomas Mann dans La mort à Venise, et ça faisait vraiment rêver, ou même se dire tout simplement, bon, il y a plus d'avions, donc je suis obligé maintenant de prendre un bateau si je veux aller en Amérique, si je veux aller à Buenos Aires ou au Canada, il faut que j'y aille en bateau. Donc, enfin, tout était complètement transformé et était réellement propice justement à la rêverie. C'est-à-dire que même si on était à la campagne comme moi, je rêvais assez facilement de voyages lointains et pour profiter, voilà, ce moment exceptionnel. Bien sûr, une épidémie, une pandémie, donc quelque chose de très grave. Et je me disais, ah, là, les journalistes ont vraiment de la chance, puisqu'ils ont cette fameuse carte de presse qui pourrait leur permettre d'aller faire un reportage n'importe où en Europe, à pied, en voiture, ou même dans le monde en bateau. Après, j'ai été finalement...
Vous avez jalousé les journalistes, vous avez dit que peut-être là, ça aurait été intéressant de l'être.
Eh oui, tout à fait. Mais non, surtout parce que c'était une espèce de sésame. On n'avait pas le droit de sortir de chez soi, mais avec une carte de presse, si on pouvait. Donc ça donnait un peu, ça rendait un balou. Et puis surtout, oui, il y avait cette contradiction absolue entre le fait d'être enfermé, immobilisé, et puis de se dire, j'ai passé du temps à regarder, par exemple, les avions qui quittaient quand même les aéroports. Et c'était incroyable de voir qu'on pouvait de toute façon quand même se rendre. Il y avait des vols pour aller un peu partout dans le monde, quoi. Malgré tout, c'est-à-dire qu'ils étaient très peu nombreux, mais il y en avait. Donc, rien n'a vraiment été complètement arrêté. Donc cette possibilité, en tout cas la possibilité mentale, l'imagination hein, était encore là. On pouvait rêver de partir. Et finalement, le rêve du départ, hein, c'est déjà un peu le voyage.
Vous parlez de cette pandémie. On a beaucoup entendu parler à propos de la lutte contre ce Covid, de guerre. Il y a eu cette rhétorique de la guerre, pas seulement d'ailleurs en France, on l'a beaucoup vu aussi du côté des États-Unis et ailleurs. La guerre, c'est évidemment un thème qui vous intéresse au premier plan. Vous la traitez d'ailleurs de façon frontale dans votre premier roman, La Perfection du tir, qui raconte l'histoire de ce sniper durant la guerre du Liban, mais on la retrouve aussi plus tard dans Zone notamment. Et vous l'enseignez d'ailleurs en ce moment, parce que vous vous intéressez à la littérature de guerre, et en particulier, vous avez un cours en ce moment de littérature sur les villes assiégées, Beyrouth, Sarajevo. Est-ce qu'il vous semble que cette rhétorique de la guerre est adaptée à la situation que l'on a vécue, que l'on vit encore aujourd'hui, ou est-ce que... Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez en faire, cette expérience, un thème pour un futur roman ?
Alors cette histoire de, enfin la rhétorique de la guerre était immédiatement présente. Et alors, c'était très intéressant de voir comment notre président de la République devenait une espèce de Clémenceau. Alors l'âge en moins, hein, évidemment, ce qu'il rapprochait de moi, parce que j'étais pas très loin de la Vendée, vous voyez. Donc tout d'un coup, entendre parler de, enfin toutes ces phrases qui venaient directement hein, de la Première Guerre mondiale, ça montrait d'abord à la fois à quel point la culture de guerre de la Première Guerre mondiale est encore extrêmement présente. Hein. On connaît tous ces histoires de différence entre, par exemple, le front et l'arrière, la première ligne. Enfin, énormément de métaphores qui sont militaires hein, et qui viennent pour la plupart de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'était d'abord frappant de voir ressurgir hein, cette culture de guerre d'il y a plus d'un siècle dans non seulement bien sûr le discours officiel, mais aussi dans les journaux, ce que disaient les gens, voilà, les soignants sont en première ligne, enfin voilà, retrouver cette différence entre la première ligne et l'arrière, qui est très liée à des circonstances purement militaires de la Première Guerre mondiale, qui fait que l'arrière, et ça c'était assez vrai aussi dans l'épidémie, était un peu beaucoup moins touché, bien sûr, que les gens qui étaient qui était au front. Donc, à écouter tout cela, effectivement, on voyait comment la culture de la Première Guerre était encore là. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir, ni en termes de destruction, ni en termes de mort. Et c'était une espèce d'abus de langage généralisé qui montrait surtout nos peurs, hein, notre peur et l'importance d'une réaction immense qu'il fallait avoir immédiatement. Ça, je pense que ça a surtout montré ça, montré l'urgence, l'importance hein, de cette épidémie pour nous tous. Hein. On s'est tous retrouvés finalement en guerre, assiégés, et on a adopté voilà, ces langages et ces métaphores. Bien évidemment, c'est une guerre d'un ordre tout à fait différent. Ça n'a bien sûr rien à voir ni avec la Première, ni avec la Seconde Guerre mondiale, ni avec ce qui s'est passé à Sarajevo ou à Beyrouth. Hein. Fort heureusement, les villes ne sont pas détruites, le nombre de victimes est bien moindre. C'est presque impossible de comparer. Mais pourtant, le danger, la présence de la mort, la contagion, la peur, non, c'est pas rien. C'est quelque chose d'extrêmement grave pour des sociétés entières, hein, des continents entiers. Ça continue encore aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est complètement derrière nous. Donc, il y avait vraiment, oui, je pense, une espèce d'état de guerre étrange, en tout cas dans le langage et dans l'épidémie. Après, est-ce que ça ferait un bon roman? C'est beaucoup trop tôt. Enfin, moi, j'ai du mal à fonctionner comme ça, ni à réagir un peu immédiatement par la fiction à un événement. Je l'ai fait une ou deux fois, mais là, je pense que si jamais un jour je devais écrire sur l'épidémie, ce serait sans doute bon d'abord pas tout de suite et ensuite par un biais. En revanche, écrire sur la sensation de justement la peur et l'enfermement, peut-être plus, oui. Mais en les déplaçant dans d'autres domaines, peut-être.
Oui, peut-être que l'événement est tout simplement pas encore fini. C'est aussi ça qui aujourd'hui vous empêche de l'imaginer.
Peut-être, oui, ouais. Probablement. Ouais. En tout cas, on n'arrive pas à en voir la fin pour nous. Hein. On se dit mais puisqu'on entend, il y a toujours ces moments dans les médias. Qui reviennent un peu comme des vagues, on entend des cas par-ci, par-là, ce qui se passe aux États-Unis, au Portugal, au Brésil, enfin bref, on a l'impression que c'est un mouvement aussi.
Et que c'est que le début, d'une certaine manière.
Ah non, alors je ne pense pas, comme vous, que c'est que le début. Non, on ne peut pas dire ça.
Beaucoup de scientifiques nous disent qu'on aura probablement de nouvelles crises sanitaires dans les années à venir.
Oui, je sais pas. Pas, moi je suis profondément optimiste et je pense qu'on va avoir un vaccin très vite et tout ça va redevenir normal. Mais en même temps, peut-être, c'est un mode de vie aussi, hein, l'optimisme. Donc, lui...
On était avec vous, Mathias Sénard, l'optimisme dans ses évasions littéraires pour cette dernière émission de Culture Monde. Avant la rentrée, bien sûr, on va prendre la direction dans quelques instants du lac Baïkal. Glorieuse Baïkal, sacrée à un chant soviétique narrant l'histoire d'un fugitif voguant dans un tonneau sur le lac Baïkal, un chant évoqué en prélude d'un roman dont on accueille l'auteur. Bonjour Johann Barbereau.
Bonjour Florian Delorme.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien directeur de l'Alliance française d'Irkoutsk et écrivain. Alors je vais prendre un peu de temps pour raconter un peu votre parcours parce que vous avez travaillé pendant une dizaine d'années en Russie, vous dirigez l'Alliance française jusqu'à ce que un jour des hommes en cagoulé débarquent chez vous pour vous arrêter, vous faire jeter en prison, le tout sous les yeux de votre fille. On est en 2015. Vous êtes alors accusé par la justice russe de pédophilie, sans aucun élément pour étayer cette accusation, et pour cause, c'est ni plus ni moins qu'un complot, hein, ce qu'on appelle en Russie un compromat. Et va commencer là une histoire absolument incroyable, faite d'évasion, de cavale, de planque, de négociations diplomatiques, et puis à nouveau de cavale qui vous conduisent par les États baltes à la France. On est là maintenant en 2017, et vous avez fait de cette aventure, de cette mésaventure, un récit. qui est paru chez Stock, dans les geôles de Sibérie, mais qui est aussi une plongée dans la culture et la littérature russe que vous connaissez extrêmement bien. Essayons de comprendre un peu les choses. Vous êtes d'abord arrêté, condamné à 15 ans de prison, vous envoie dans un camp, vous y passez 71 jours, vous êtes ensuite placé en résidence surveillée, et puis un jour, vous recouvrez votre bracelet électronique d'un papier d'aluminium pour confiner le signal, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de réaction. Et donc vous vous dites qu'il y a là peut-être une fenêtre d'opportunité pour prendre le large et semer votre hacker. Vous rejoignez l'ambassade de France à Moscou en covoiturage, et là pendant des mois, 14 exactement, vous attendez une issue diplomatique qui ne viendra jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé la solution politique et diplomatique pour vous faire sortir de là, Yann Barbereau?
Alors déjà, bravo pour votre résumé, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, l'histoire est compliquée. C'est un des ressorts du livre, d'ailleurs, d'affronter cette complexité et de dire que moi, j'ai pas forcément les réponses et tous les éléments pour comprendre tout ce qui s'est passé exactement. Mais alors, pour la question diplomatique, c'est... rien que de très banal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je ne suis pas, moi, un enjeu... ma personne n'est pas un enjeu diplomatique à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis un grain de sable, disons, dans les relations franco-russes, qui gêne cette relation, certes, mais la diplomatie française ne va pas mettre tous les moyens pour me tirer de là, parce que, il y a bien d'autres sujets. Et c'est ce qui se comprend, d'ailleurs, hein, la guerre en Crimée... et puis tous les sujets en fait hein, qui opposent les diplomaties russes et européennes sont là, et bien avant le sujet Yoann Barbereau.
Vous avez compris pourquoi on vous en voulait, Yoann Barbereau? Tout n'est pas. Bien sûr, vous l'avez dit, tout n'est pas parfaitement clair et parfaitement limpide. Et il y a d'ailleurs un point sur lequel on reviendra. Mais vous avez compris pourquoi est-ce qu'on vous en veut?
Oui, alors je donne quelques éléments. C'est ces moments dans la vie où il y a un alignement de planètes. Et alors là, c'est l'alignement des planètes noires. Donc, ce que j'essaye de dire dans le livre, c'est-à-dire que certains voudraient une explication claire, que je sois un espion ou que j'ai couché avec la femme du maire. J'aurais adoré raconter ça et découvrir ça à la fin du livre. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est... une conjonction de facteurs. On est à ce moment-là au pire de la relation franco-russe, donc juste après l'annexion de la Crimée. Moi, je suis à Irkoutsk, donc à 5000 km de Moscou, hein, loin de ces questions-là et des questions qui agitent la capitale et son président, Vladimir Poutine. Mais je ressens ça comme c'est un peu les soubresauts, disons, hein, de ces problèmes-là, et moi je suis proche du maire de la ville, qui est un maire d'opposition, dans un contexte compliqué, ou dans un contexte personnel compliqué que je raconte, où je suis en train de me séparer de ma femme, et tous ces facteurs, disons, mis ensemble, une politique locale compliquée avec un maire qui essaye de s'en sortir, et moi qui est sans doute trop proche de lui, trop proche de l'opposant, fait que le FSB, donc les ex-KGB, les services locaux russes, donc qui sont pas du tout, on s'en fait une fausse image, le FSB d'Irkoutsk, donc à 5000 km de Moscou, n'est sans doute pas le FSB terrifiant et extrêmement compétent et efficace qui peut exister par ailleurs, et il lance en fait un coup un peu hasardeux en se disant, c'est un peu l'histoire... Alors moi, mon explication, celle que j'ai pu en comprendre, c'est l'histoire du serviteur zélé, celui qui se dit qu'il va faire plaisir au grand monarque qui est à 5000 km de là, en se payant le français et en peut-être trop visible dans la ville, trop proche des opposants. Voilà, c'est une des explications que je donne dans le livre.
Yoann Barbereau, alors que le FSB, justement, sait parfaitement que vous êtes couvert par l'ambassade, vous décidez quand même de repartir en cavale pour quitter le pays en passant par l'Estonie, avec l'aide d'amis russes, d'ailleurs, qui ont pris des véritables risques pour vous. Comment est-ce que vous construisez la conviction que, finalement, la meilleure solution, c'est l'évasion, sachant que c'est extrêmement risqué pour vous et pour les gens qui vous aident, précisément?
Oui, il y a plusieurs explications, mais pour être un peu dans votre thématique, évidemment que je le laisse transparaître dans le livre à quelques endroits. Je suis peut-être titillé par des envies d'aventure à un moment, et y a ça, évidemment, qui est un des moteurs, qui est pas le seul, mais bon, alors le principal moteur aussi, dont on n'a pas trop parlé, c'est ma fille, de 5 ans, et les accusations infamantes, ignominieuses que j'ai sur le dos sont en lien direct avec mon rôle de père, en fait. Hein. On m'accuse sans aucun élément de l'avoir violé, en fait. Hein. C'est une des accusations. Donc là, c'est une manière pour moi aussi de retrouver mon honneur, en fait. Hein. C'est quelque chose comme ça. Et puis il y a aussi un calcul, hein, ce que je raconte, je suis pas pris que par des passions et des émotions. À un moment, il y a un calcul très simple. Je vois que ma situation va être révélée publiquement parce que des journalistes sont sur cette affaire. Et donc, si on révèle publiquement que je suis enfermé, caché dans l'ambassade de France à Moscou, je vais me retrouver, toute chose égale par ailleurs, dans la situation d'un Julian Assange. Alors, j'ai rien à voir avec Julian Assange, hein, je suis pas un lanceur d'alerte, mais je vais me retrouver dans la situation de quelqu'un qui est enfermé dans une ambassade avec des services extérieurs qui font le siège de cette ambassade et impossible de s'échapper pendant 5 ans, 10 ans, peut-être que c'est toute une vie dans une ambassade. Et voilà, donc je mets en regard ce risque-là. Une vie qui n'en serait pas une vie de fantôme au milieu d'une ambassade, et la possibilité de jouer un tour de nouveau à mes poursuivants, hein, puisqu'il y a ça aussi, hein, et je lance un espèce de défi au FSB à ce moment-là, dans ma tête, hein, en me disant, voilà, ces gens-là m'ont mis plus bas que terre, eh bien, moi, maintenant, je vais prouver que je peux franchir une frontière illégalement, au nez à la barbe des services russes.
Alors, Yoann Barbereau, il y a évidemment tout ce que vous racontez, la réalité, les faits, et puis il y a le livre en lui-même, l'œuvre en elle-même, la littérature. C'est vraiment un livre que moi j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très haletant, très agréable à lire. Benoît Vidkine, qui est journaliste au Monde et qui est correspondant à Moscou et qui est un amoureux du monde russe, on l'entend parfois ici même à ce micro à Culture Monde, a fait un article dans lequel il dit que vous avez fait ici œuvre de littérature et que cette expérience a fait de vous un écrivain. Est-ce que vous avez, vous, ce sentiment, cette aventure, cette mésaventure, vous a construit en tant qu'écrivain ?
Oui, bien sûr, et voilà, tout ce qu'on vient de dire là jusqu'ici, en fait, ça peut faire des articles de journaux, mais ça suffit pas à faire un livre, je crois. Et ce que je dis dans ce livre, c'est comment on peut faire d'aventure ou de mésaventure une occasion de d'être un autre. J'ai beaucoup aimé l'archive de Nicolas Bouvier au début de l'émission qui dit ça aussi. On va se transformer, être autre en se confrontant à un autre pays, à l'ailleurs, mais aussi évidemment tout ce mouvement doit s'accompagner de littérature et d'un acte littéraire. Et donc c'est ça que j'ai voulu faire. Moi j'écrivais depuis longtemps, je voulais écrire depuis longtemps, et puis là, en quelque sorte, le sujet a été rêvé. Le FSB m'a offert de devenir l'écrivain que je voulais devenir depuis toujours. Alors je le dis avec un peu d'ironie, je me serais passé des souffrances et que je raconte dans le livre.
Et de la même manière que le FSB se serait passé du livre, visiblement. Ils avaient une seule obsession, c'était est-ce que il va écrire un livre sur cette histoire.
Oui, c'est ça. Oui, complètement. Et c'est ce que je dis. Il y a peut-être un espoir, en fait, si le FSB, les services de renseignement du monde et parmi les plus retors craignent la littérature et les livres, il y a de l'espoir.
Je voudrais peut-être entendre Mathias Sénard sur cette expérience, les faits, mais aussi la manière dont il transforme un homme qui était peut-être déjà un écrivain, mais en écrivain, j'allais dire accompli en tout cas, qui a publié désormais. Mathias Sénard, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça ?
Ah ben, j'avoue que je suis extrêmement surpris par le fait que effectivement un livre puisse encore gêner
le FSB.
Les services secrets. Effectivement, c'est une excellente nouvelle pour les littérateurs. Donc moi, je pensais évidemment que personne n'avait plus rien à faire, mais il y aurait beaucoup à écrire aussi sur les relations entre la littérature et les services secrets. Mais ça donne
vraiment. Vous pourriez vous écrire vous sur le monde russe. Vous nous disiez tout à l'heure le choc qui a été le vôtre en lisant la prose transsibérienne de Sandra. Est-ce que vous pourriez écrire sur le monde russe ? Pour l'instant, c'est le Moyen-Orient essentiellement et le Poitou.
Oui, le poète. Non, j'ai écrit un petit texte qui se passe en Russie. Ouais. Moi, j'aime beaucoup la Russie. la littérature russe, la langue russe, même si je suis très nul, hein, mais oui, c'est un pays qui m'a toujours fasciné. Et où j'ai aussi le projet de retourner un jour, mais peut-être pas dans très longtemps d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est aussi un pays extraordinairement effrayant par son arbitraire et le danger aussi qu'il représente et dont on voit bien qu'il est tout à fait réel. C'est un peu ça fait aussi partie de l'histoire de la Russie. L'arbitraire, la dictature, le totalitarisme, dont on voit que ça existe encore, que c'est pas non plus un mythe, quoi.
Yoann Barbereau, aujourd'hui vous avez quand même toujours sur le dos cette condamnation de la justice russe, ce qui vous empêche évidemment de vous y rendre. Par ailleurs, vous avez toujours un mandat d'arrêt d'Interpol sur le dos également. Donc en réalité, vous ne pouvez pas quitter le pays sans risquer d'être rattrapé par cette affaire. Vous êtes d'une certaine manière un confiné avant que tout le monde n'ait connu cette expérience-là. Comment vous vivez cette privation de liberté? Et comment est-ce que vous allez la régler d'un point de vue, j'allais dire, littéraire? Est-ce que, par exemple, vous pourriez choisir d'écrire à nouveau pour pallier ce manque de liberté?
Oui, sûrement. Sûrement. Moi, je suis en plein dans le problème aujourd'hui du livre suivant, après avoir lancé celui-ci qui est très particulier, qui est lié à une histoire très particulière.
Repartez en cavale, ça vous fera un autre sujet.
Voilà, c'est ça, il faudrait repasser la frontière dans l'autre sens. Alors oui, il y a deux choses que je sépare quand même. Bon, il y a un combat juridique, hein. J'ai toujours des démarches devant Interpol et j'espère que cette notice rouge va être levée. Mais bon, pour l'instant, vous parlez toujours à un bandit internationalement recherché. Oui.
Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment, Yoann Barbereau, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle pour les auditeurs que vous avez donc écrit Dans les geôles de Sibérie, qui est paru chez Stock, que je conseille vraiment aux éditeurs. C'est une belle lecture. Et également, vous avez fait la traduction en vers d'un livre d'un poète russe, Igor Guberman, Journal de prison. On va s'intéresser tout de suite à un grand écrivain voyageur, évidemment, Joseph Kessel.
Il y a une grande différence parmi les écrivains. Il y a ceux qui préfèrent analyser les sentiments, les pensées, qui se penchent sur la minutieuse horlogerie intérieure, tandis que les autres, auxquels je crois appartenir, aiment mieux aller chercher leur sujet, leur héros, dans le vaste monde, se mêler aux hommes d'action, décrire leurs actions et eux-mêmes se voir au milieu de ces hommes et de leurs aventures.
En un mot, vous êtes l'homme de votre vie et non pas l'homme de votre plume.
Oui, ça certainement. Peut-être tant pis pour la plume, mais à coup sûr, tant mieux pour la vie.
Voilà, Joseph Kessel. Il se trouve que le 4 juin dernier, il faisait son entrée dans la prestigieuse collection de la Pléiade de Gallimard, consécration ultime pour ce journaliste, aviateur, romancier qui fut l'un des plus grands témoins du siècle dernier. Alors comment est-ce qu'on fait une sélection dans une œuvre pléthorique telle que celle de Joseph Kessel? Bonjour Serge Linkès. Pardonnez-moi pour la prononciation. Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'Université de La Rochelle et chercheur à l'Institut des textes et manuscrits modernes. C'est vous donc qui avez dirigé l'édition des deux tomes de romans et récits de Joseph Kessel. Joseph Kessel, c'est quoi? C'est à peu près 80 romans, sans compter les autres publications, les articles, les biographies, les scénarios. Comment est-ce qu'on fait pour trier cette œuvre absolument colossale et pour décider de ce qui a vocation à être publié dans la Pléiade?
C'est une question qu'on pose souvent. Alors, évidemment, même savoir.
Elle est d'actualité.
Elle est d'actualité. Combien de textes ont été édités véritablement, c'est assez difficile. On est autour de 80, mais bon, voilà, on trouve toujours des choses publiées, parfois sous un autre titre, et puis parfois avec un autre nom, parce qu'il s'est appelé aussi Jacques Kessel, par exemple. Donc ça, c'est pour la difficulté à circonscrire l'œuvre de Kessel. Et pour les choix, il y a eu plusieurs critères qu'ont présidé à ces choix. D'abord, le fait d'avoir des œuvres qui tracent un portrait le plus représentatif de Kessel dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois le reporter, le romancier, le conteur, aussi le journaliste, hein, parfois parce qu'on a inséré dans cette pléiade des articles et pas simplement forcément des reportages. Et puis il y avait aussi la nécessité possibilité de faire s'organiser ces choses-là d'un point de vue chronologique, mais aussi d'un point de vue géographique. C'est-à-dire que Kessel, c'est pas simplement une vie très longue, c'est une vie aussi de déplacement assez incroyable pour un auteur. On est loin des déplacements de Flaubert ou Stendhal, hein, évidemment. Et avec des œuvres qui sont très différentes. Kessel le disait lui-même, avec un petit peu, c'est la limite du mensonge, parce qu'il s'est aussi intéressé à la vie intérieure. Hein. Je pense à Belle de Jour ou Les Captifs, on n'est pas forcément dans l'exotisme à ce moment-là. Et on avait aussi des choses qui posaient problème, par exemple le fameux Tour du Malheur, qui est un roman en 4 volumes énorme et qui, si on l'avait édité, nécessitait une pléiade, enfin un volume à lui tout seul. Le problème d'éditer ce roman, il n'a pas été écarté parce qu'il est mauvais, non, pas du tout, il a été écarté tout simplement parce qu'il était trop volumineux, et que dans ce cas-là, il fallait éliminer à peu près 8 à 10 romans. Et ce n'était peut-être pas rendre Kessel dans son ensemble.
Et puis aussi parce que c'est pas, disons-le, son plus grand succès, le Tour du Malheur, quand même.
Effectivement, c'est pas son plus grand succès. Il a été assez mal accueilli par la critique, pas par les lecteurs. Les lecteurs ont apprécié ce roman de Kessel, mais par la critique, l'accueil a été assez froid. D'ailleurs, Kessel a été, vexé parce que il attendait beaucoup de ce roman-là. Il s'est d'ailleurs abstenu d'écrire du roman après la publication. Le Tour du Malheur paraît en 1950, et à partir de ce moment-là, voilà, on pose le roman, il part sur des grands reportages en Asie, en Afrique, au Kenya, voilà. Et le retour au roman se fait avec Le Lion, donc en 1958, on est 8 ans plus tard. Donc voilà, il y a une sorte de pause romanesque qui est certainement liée, j'interprète un peu, hein, évidemment, on n'a pas vraiment d'écrit de expliquant cette chose-là par Kessel, mais on peut imaginer que la chose a été assez mal vécue, parce que les romans de Kessel étaient généralement très bien accueillis par la critique. Au départ, L'Équipage en 1923, c'est une série de succès, il y a eu parfois des scandales, on pense à Belle de Jour par exemple, mais le scandale était lié au sujet, hein, un petit peu chaud, il le serait encore actuellement. Mais là, c'était plus l'écriture, le contenu, la forme qu'avait donné Kessel à son roman qui passait mal auprès des critiques. Le roman était peut-être un peu en décalage temporel. Il aurait paru dans les années 1930. Il aurait été accepté certainement différemment. Mais les lecteurs ont apprécié et apprécient toujours, et avec justice, parce que ça, pour moi, c'est un très bon roman.
Serge Inquès, vous rappelez évidemment que Kessel a énormément voyagé. Vous parliez du Lion, on est au Kenya. Les Cavaliers, on est en Afghanistan. Vous aimez à rappeler que il faudrait plusieurs vies pour égaler ce qu'a fait Kessel en termes de voyage. Mais Kessel, c'est surtout effectivement un voyageur du lointain. Quelle place fait-il à l'exotisme de proximité? Est-ce que l'aventure peut aussi, chez Kessel, se faire ikenunk, en bas de chez soi?
Alors exactement comme Mathias Sénard avec Les Deux Sèvres, hein, l'exotisme de Kessel est parfois au coin d'une rue et à Paris, entre deux cabarets, entre le Caveau Parisien, la Cloche d'Or, le Poisson d'Or, entre Montparnasse, Montmartre et Pigalle. D'ailleurs, on retrouve ça dans un roman qu'on appartenait, enfin dans un recueil qu'on appartenait qui s'appelle Montmartre, parce qu'il redoublait un peu la passante du sans souci sur les lieux et puis sur les personnages. Alors c'était Mine Montmartre, c'est composé à partir d'articles qu'il avait fait paraître dans Détective, hein, dans les années 30, et où on a une succession de portraits de lieux qui sont liés à l'exotisme parisien. Hein, et Kessel, lui, l'aventure est au coin de la rue, hein, il n'y a aucun souci par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il trouve toujours l'exceptionnel, quel que soit le lieu. On n'a pas besoin d'être dans le haras pour rencontrer des gens exceptionnels. Ces gens exceptionnels, il fait une liste d'ailleurs dans le Montmartre, les musiciens, les chasseurs, les boxeurs, les souteneurs, les marchands de drogue, les déclassés, etc., etc. Et c'est ce même type de personnages qu'il va rencontrer, je parlais du haras, ou en Éthiopie, ou au Yémen.
Mathias Sénard, Joseph Kessel, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Vous me disiez tout à l'heure que vous jalousiez, par exemple, les journalistes au moment du confinement qui avaient le droit précisément de se déplacer. Joseph Kessel, lui, précisément, est resté toujours un journaliste, y compris d'ailleurs après l'apparition du Lion, dont le succès dépasse les frontières nationales. Il continue à faire du reportage et il est visiblement très attaché à ce travail de journalisme. Il représente quoi pour vous, Kessel, Mathias Sénard?
Ah, mais c'est un modèle, un espèce de grand frère éternel, quelqu'un dont j'ai lu tous les livres et les reportages, que j'adore absolument depuis le début des courts récits russes, enfin de la Sibérie, de Vladivostok ou des récits de la guerre civile, jusqu'à la fin de sa vie, en passant par Fortune Carrée, Mermoz, enfin j'adore absolument Kessel, et justement parce que sa vie c'est le siècle, quoi. Il y a pas, c'est extrêmement difficile de faire. Dès qu'il se passe quelque chose, ben il y a Kessel est là. C'est donc dès que voilà, il y a par exemple, il a le premier visa, le visa numéro 1 de l'État d'Israël. Il arrive à 5:00. Après l'indépendance de l'État d'Israël, il se pose en avion justement pour un reportage et il se trouve que voilà, il est là, il est toujours là, c'est à la fois le Kessel de la résistance. Enfin, c'est lui qui écrit quand même le chant qu'on chante encore et qu'on rapporte à la résistance. Bref, il fait, c'est notre siècle, quoi. Bon, Joseph Kessel, celui de la planète, il a un intérêt immense pour les êtres humains. C'est quelqu'un qui est d'un charisme et en même temps d'un altruisme extraordinaire. Et puis on raconte quelque chose d'incroyable sur Kessel, et donc c'est lui qui dit ça, je sais pas si c'est vrai, mais qu'il pouvait mâcher des verres, il buvait un verre de vodka et il mangeait. Alors, il devait avoir un truc quand même, hein, pour mâcher le verre de vodka justement dans ces soirées gitanes parisiennes entre Russes et malfrats de Montmartre. Et on dit ça. Alors, puisqu'on a un spécialiste, peut-être
on peut le confirmer. On va demander à Serge Linkes. Il mâchait les verres. C'était peut-être des verres en sucre, non?
Non, des verres en verre. C'est ce qu'on dit. Il y a plusieurs témoins qui le rapportent. Donc, je pense qu'on peut croire que cette chose-là est vraie. C'est une tradition qui se faisait, qu'il avait certainement apprise du côté de Vladivostok, là, au tout début de sa vie, en 1919. Et oui, il était réputé pour cette chose-là. C'est le personnage de Kessel. C'est-à-dire que c'est à la fois le grand romancier, le grand reporter, et celui qui, dans les tableaux parisiens, mâche des verres à la fin de la soirée pour le, il devient l'attraction. Je pense que c'est vrai. J'ai pas vu moi-même, évidemment, je suis un peu jeune pour avoir été témoin de ça, mais de nombreuses personnes le rapportent, y compris Kessel. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on.
Merci beaucoup à vous, Serge Linkes, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc la publication dans la Pléiade des romans et récits de Joseph Kessel. Un grand merci également à vous, Mathias Sénard, de nous avoir accompagnés ce matin. C'était un plaisir d'échanger avec vous pour cette dernière émission de Culture Monde de l'année. Je rappelle que vous allez publier, ça sera à la rentrée, on aura l'occasion d'en parler forcément sur France Culture, le banquet annuel de la confrérie des Fossoyeurs. Ça sera chez Actes Sud, évidemment. Un grand merci à vous. Et puis un grand merci aussi à toute la petite équipe, la grande équipe même de Culture Monde qui m'a aidé toute cette année à faire toutes ces émissions. Mélanie Chalandon, et j'oublie pas aussi Hélène Lefrançois qui nous a accompagné toute une partie de l'année, mais aussi Margot Leridon, Bertie Bourdon, Luc Calazo et Benjamin Hu. Merci beaucoup à la Dream Team. Et je rappelle pour les auditeurs qu'on se retrouve évidemment à la rentrée. Et que vous retrouverez aussi Brice Couturier qui a un tout petit peu disparu ces derniers temps, mais pas d'inquiétude, il sera de retour en septembre. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.